Les cours du Collège de France, Franck Courchamp, chère biodiversité et écosystème.
Bonjour, merci d'être venu après ce petit break. On va continuer le cours sur les invasions. La dernière fois, les deux dernières fois, on s'est focalisé sur les espèces exotiques envahissantes. Cette fois-ci, on va se focaliser plutôt sur le réceptacle, sur l'environnement qui est envahi. Et donc, puisqu'on va s'intéresser au réceptacle, à l'environnement, on va parler beaucoup de relations entre les espèces. Donc, je vous, comme d'habitude, vous présenter ce cours en trois parties. Une partie sur les invasions qui peuvent être, en fait, utilisées comme un modèle d'étude. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé ma carrière. Ce n'était pas forcément avec un intérêt sur la protection des espèces. C'était plutôt un intérêt, on va dire, fondamental sur la compréhension des écosystèmes, des relations entre les espèces. Et donc, je prenais les invasions biologiques comme un modèle d'étude. Ensuite, on va utiliser les écosystèmes insulaires, les îles, comme modèle d'étude aussi. On va voir en quoi ça peut être vraiment riche d'enseignements pour d'autres types de modèles. Et puis, on va se focaliser sur une île qui est en fait l'objet de ce cours, et sur laquelle je travaille depuis... j'ai commencé à travailler dessus il y a 25 ans. Mais d'abord, les invasions biologiques comme modèle d'étude. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les introductions d'espèces dans un système, ça peut être vu comme une espèce d'expérience naturelle d'addition d'espèces dans un réseau trophique. Et de la même manière, l'élimination d'espèces introduites, quand on fait du contrôle, de la gestion de ces espèces, ça peut être vu comme une expérience grandeur nature de soustraction d'une espèce d'un réseau trophique. C'est une manière de voir le système. Et en fait, les deux, les introductions et les éliminations, ce sont des perturbations qui sont des moyens uniques d'étudier les relations entre les maillons du réseau trophique et donc les flux d'énergie, les flux de matière, etc. C'est un petit peu comme... On a compris le corps humain grâce à la médecine, grâce aux maladies. On a compris à quoi servait le foie quand le foie fonctionnait plus bien. Et là, c'est un petit peu pareil. Quand un écosystème ne fonctionne plus bien et on arrive à comprendre pourquoi il ne fonctionne plus bien, lorsqu'il fonctionne bien, c'est plus difficile de savoir ce qui s'y passe exactement. Et si on s'intéresse aux écosystèmes envahis, comme on va faire pendant ce cours, en fait, le concept d'invasion, il est fondé vraiment sur l'importance des interactions entre les espèces. C'est vraiment la base de ce qui fait que les invasions biologiques, c'est quelque chose d'important et de spécifique. Les interactions interspécifiques entre les espèces exotiques envahissantes et les espèces natives, mais aussi les interactions interspécifiques entre les différentes espèces exotiques envahissantes qui sont présentes dans l'écosystème. Vous vous rappelez, sur les fourmis, on a vu qu'il pouvait y avoir plusieurs espèces exotiques envahissantes qui arrivaient en même temps dans un écosystème. Et donc, on va commencer cette première partie par ces effets interspécifiques et en particulier les effets indirects. Vous vous rappelez, dans la leçon inaugurale, si vous l'avez suivi, ce petit schéma, en fait, les espèces exotiques envahissantes ont des interactions interspécifiques avec de nombreuses espèces, végétales et animales, et micro-organismes et champignons, les espèces indigènes comme les espèces exotiques, donc de nombreuses interactions. Et les espèces exotiques auront donc des interactions aussi indirectes avec plusieurs de ces espèces, puisqu'elles ont de nombreuses interactions. Et en fait, l'écologie des communautés, qui est l'écologie de toutes les espèces qui interagissent dans un même habitat, ça nous apprend que les interactions indirectes peuvent être de puissants moteurs dans la dynamique des réseaux trophiques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec trois types d'effets indirects que je vais vous présenter avec différents exemples. Des effets qui vont favoriser l'invasion, des effets qui, au contraire, enfin pas au contraire, mais un cran de plus, vont entraver le contrôle de ces invasions, et puis des effets indirects qui vont créer ce qu'on appelle des effets de surprise suite au contrôle des espèces exotiques envahissantes. Donc un premier exemple d'effet indirect qui favorise les invasions, un exemple simple, je reviens à un exemple qu'on a vu déjà plusieurs fois dans les cours, la moule zébrée. La moule zébrée, en fait, c'est un organisme filtreur. Donc, il va y avoir une filtration accrue de l'eau lorsqu'il y a une invasion par la moule zébrée, par exemple dans les lacs nord-américains, avec une élimination du phytoplancton, et ça, ça va faire un éclaircissement de l'eau. L'éclaircissement de l'eau va faire une amélioration de la photosynthèse pour les plantes et va favoriser les invasions de plantes invasives, notamment la plante du myriophylle en épi qui a envahi les lacs nord-américains là où la moule zébrée venait d'envahir. Donc un effet simple d'une invasion qui va favoriser une autre invasion. Après, vous avez des effets réciproques où chaque envahisseur va aider l'autre. Et un exemple, c'est dans les forêts du nord de la Nouvelle-Zélande, les ongulés qui ont été introduits là-bas. En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de mammifères terrestres. Hein. Donc tous les mammifères terrestres qui sont là-bas sont des mammifères introduits et la plupart du temps envahissants. En fait, ils détruisent le sous-bois en broutant, en faisant du surpâturage, des sous-bois qui ne sont pas du tout habitués à ce surpâturage. Et ça, ça va assécher les forêts. Et ça, ça va rendre l'habitat favorable au phalanger renard, qu'on appelle aussi l'opossum, à ne pas confondre avec possum, qui est américain, et qu'en français, on appelle opossum. Donc c'est pour ça qu'en français, on l'appelle phalanger renard, qui lui va détruire les canopées des arbres. Donc lui, il est en haut des arbres et il va manger les feuilles des arbres. Et ça, ça va faciliter la lumière qui va arriver dans le sous-bois et ça va faciliter la régénération du sous-bois, qui va augmenter les jeunes pousses dans les sous-bois qui vont bénéficier aux ongulés. Donc vous voyez ici, chacun va aider l'autre. Un exemple un petit peu plus simple, on va dire. Entre une plante et un animal envahissant, également réciproque. Donc en Méditerranée, il y a deux espèces exotiques envahissantes qui ont un impact vraiment important. La griffe de sorcière, le Carpobrotus qui vient d'Afrique du Sud, et le rat noir. Mais en fait, du fait du climat aride dans ces îles méditerranéennes, les deux ont du mal quand même à envahir les îles. Il fait trop chaud, il fait trop sec. Sur l'île Bago, que vous voyez ici, en Méditerranée, au large de Marseille, les deux sont présents. En fait, les rats mangent les fruits du Carpobrotus, ce qui leur permet de survivre pendant la maison sèche, la saison sèche. Ce sont des fruits qui sont... c'est des plantes succulentes. Et les rats, eux, ils vont manger les fruits, ils vont manger les graines, ils vont disperser les graines un petit peu partout dans l'île. Et ça, ça va permettre à la plante envahissante de se propager partout sur l'île. Et partout où elle se propage, le rat va pouvoir aller parce qu'il va trouver de quoi survivre pendant la saison sèche. Et donc la présence simultanée des deux a permis l'invasion de toute l'île par les deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle « invasional meltdown », où vous avez une espèce qui favorise l'autre et l'autre qui favorise la première. Chacune se favorise. Et je vous donne un dernier exemple, parce que celui-là, il est un peu connu, donc ce serait dommage de passer au travers. C'est celui de l'île Christmas, qui est une île australienne, qui est assez célèbre pour sa migration de crabes terrestres. Donc déjà, les crabes terrestres, ce n'est pas forcément très courant. C'est des crabes qui sont assez gros, et c'est surtout des crabes qui sont très très nombreux, hein, 45 millions de crabes. Et puis c'est assez impressionnant parce qu'ils ont une reproduction synchrone, donc ils vont tous en même temps partir sur les plages pour frayer à un certain moment dans l'année. Donc des migrations qui sont assez impressionnantes. Et puis sur cette île, il y a la fourmi folle jaune, Anoplolepis gracilipes, qui veut dire au pied gracile, mais en fait on l'appelle la fourmi folle parce qu'elle elle a un comportement très très erratique de recherche, elle bouge dans tous les sens. Cette fourmi folle a envahi l'île et elle forme des supercolonies. Supercolonies, je vous en ai parlé assez brièvement la dernière fois, ce sont des colonies, ce sont des fourmilières où dans les deux fourmilières, les individus n'ont pas de phéromones distinctes l'une de l'autre et donc se reconnaissent comme étant de la même fourmilière. Ce qui fait qu'elles n'ont pas de compétition intraspécifique. Elles ne se battent pas entre elles pour le territoire. Prenez une fourmi d'une fourmilière, vous la mettez sur l'autre fourmilière, elle a l'impression d'être à la maison. Donc il n'y a pas d'agressivité. Alors que dans les autres espèces qui ne font pas ces super colonies, ou dans ces espèces, quand elles font des super colonies, il y a des endroits où elles ne le font pas. Si vous prenez une fourmi, une ouvrière d'une fourmilière, vous la mettez sur une autre, elle se fait tout de suite tuer. Okay ? Donc les supercolonies, des fois, elles peuvent être assez grandes. Elles peuvent couvrir des territoires énormes, et ça, ça fait une compétition par rapport aux autres espèces de fourmis locales qui est énorme, mais aussi au niveau de la prédation, c'est quelque chose de très important. Et en fait, ces super colonies, elles couvrent toute l'île, en tout cas des grandes parties de l'île, avec des densités énormes de 1000 fourmis par mètre carré. Vous imaginez un carré de 1 mètre de côté, 1000 fourmis dedans. Donc ça fait quelque chose qui est assez difficile pour la faune locale, et notamment pour les crabes qui se font assaillir, qui se font asperger d'acide formique et qui meurent en fait de l'attaque de ces fourmis. Et donc en fait, ces crabes disparaissent, ces millions de crabes disparaissent de l'île de Christmas. Donc là, vous voyez ici un écosystème typique de l'île de Christmas. En fait, ces crabes, ils se nourrissent de feuilles mortes. C'est des détritivores. Et donc, ils nettoient complètement le sol de ces forêts. Et ça fait des écosystèmes qui sont vraiment uniques avec un écosystème tropical, mais avec un sol complètement nettoyé. Mais un an après l'invasion, en fait, si on regarde ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de crabes, en fait, la litière s'accumule. Ça va créer un tapis dense de feuilles sur le sol. Ça va permettre aux semis, aux jeunes pousses de prendre racine, de pousser. Et en quelques mois, on va avoir des bosquets. Et puis, on va avoir des tunnels de terre qui vont être complètement effondrés, bouchés par toutes ces plantes, puisque les crabes ne sont plus là pour les entretenir. Et ça enlève des habitats pour d'autres espèces. Et puis, d'habitude, les crabes labourent le sol. Là, le sol va être très compacté. Donc, vous voyez comment on passe assez rapidement à un écosystème complètement différent du fait de cette invasion. Mais en fait, les fourmis folles jaunes, donc j'ai dit, elles forment des super colonies. Les super colonies, ça peut être des fois énorme. Alors, celle de Christmas Island, elle est aussi grande que tout le 4e arrondissement de Paris. Donc, le quartier du Marais, l'hôtel de ville, si vous ne connaissez pas. Donc, vous voyez, ça, c'est une colonie, une super colonie de fourmis. Mais ces super colonies, elles ne peuvent pas se former s'il n'y a pas un approvisionnement énorme et régulier en ressources, évidemment. Bon, il y a les crabes, mais pas que. En fait, elles ont bénéficié d'une autre invasion. C'est une cochenille lacigène, qui, à partir de la sève des arbres qu'elle parasite, va faire du miella. Et ce miella est très énergétique. Et vous avez certainement vu déjà des fourmis sur des plantes qui sont là avec des cochenilles et qui en fait protègent les cochenilles des prédateurs. Donc les fourmis protègent les cochenilles des prédateurs, mais aussi, donc activement, mais aussi en nettoyant complètement tous les prédateurs. Donc ces cochenilles qu'on voit ici vont être libres de proliférer et ça va faire deux invasions, une invasion de cochenilles et une invasion de fourmis. Deuxième type d'effet indirect, les effets qui entravent le contrôle. Alors, si on prend un exemple de proie exotique, de proie envahissante, donc par exemple les lapins, on mettait des lapins sur une île, en fait, les lapins sont souvent adaptés à des prédateurs exotiques, par exemple des chats sur des îles. Ils sont adaptés de différentes manières, au niveau comportemental, au niveau dynamique des populations, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent de manière à compenser les pertes dues à la prédation. C'est un type d'adaptation. Et donc, ils vont supporter des niveaux de prédation assez importants, sans forcément en pâtir au niveau population. Et la présence de ces proies exotiques, donc de ces lapins, va en fait aider le prédateur exotique, le chat, à s'établir et à se répandre dans toute l'île. Si vous avez des zones, par exemple, où il n'y a pas d'autres, où il n'y a pas, par exemple, d'oiseaux marins, mais qu'il y a des lapins, alors les chats vont pouvoir aller dans ces zones. Mais cette présence va aussi empêcher le contrôle efficace des prédateurs exotiques en compensant les mortalités. Donc si vous éliminez par exemple les chats sur une île, mais qu'en même temps ils sont bien nourris parce qu'il y a des lapins, ben ils vont continuer à se reproduire et c'est un peu comme si vous enlevez la bonde de votre baignoire, mais en même temps vous laissez le robinet ouvert. Votre baignoire ne va pas se vider très vite. Et donc, en fait, les proies exotiques doivent être éliminées en même temps que leurs prédateurs, sinon le contrôle des prédateurs va probablement échouer. C'est des choses qui ont été vues dans le passé. Et puis, le troisième type d'effet indirect, c'est ce qu'on appelle les effets de surprise, des effets de surprise qui sont dus au contrôle d'une espèce exotique envahissante. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'une équipe américaine que j'ai rencontrée en Nouvelle-Zélande en 99 et qui c'était pendant un congrès sur les invasions et qui nous avaient présenté leur rôle. Alors chacun présentait ses programmes de recherche, donc ils nous ont présenté un programme qui s'est fait dans les îles Mariannes, dans le Pacifique, où il y avait une population de cochons et surtout de chèvres qui menaçait, qui broutait tout, qui menaçait donc toutes les plantes sur cette île, les plantes pas adaptées aux herbivores, et donc aussi les animaux qui dépendaient de ces plantes. Alors les conditions sont difficiles sur cette île, et donc ils ont misé surtout sur l'efficacité avec une étude préalable très courte. Et quand je dis que les conditions sont difficiles, vous pouvez imaginer ici, c'est vraiment une île un peu complexe pour faire de la gestion. Alors vous me direz, ben, en fait, il suffit de s'installer ici et puis d'éliminer les chèvres ici parce que ben, y a pas besoin d'aller les chercher là, ça fait moins d'îles. Mais en fait, non, les chèvres, il faut aller les chercher partout. Donc c'est des conditions vraiment difficiles. Mais c'est une équipe américaine costaud. Donc lui c'était le chef là, qui nous avait présenté le truc. Lui il fait 2m10 pour vous donner l'échelle par rapport aux autres, donc les autres ils sont pas petits non plus, et donc voilà l'équipe de Rambo qui va sur cette île et assez vite ils ont éliminé toutes les chèvres de l'île et donc ils jugent que l'opération est satisfaisante et on espère du coup que toutes les populations natives qui étaient menacées vont récupérer rapidement. Donc, ils nous ont montré des photos. Ça, c'est sur la plaine centrale. Ici, j'ai entouré un rocher pour qu'on suive, parce que l'année suivante, en fait, eh bien, ça a été couvert d'une liane envahissante qu'ils n'ont pas amenée depuis, qui n'est pas arrivée depuis, qui était là tout du long, mais que les chèvres contrôlaient en les mangeant. Puis l'année suivante encore, eh bien, en fait, on peut dire que le succès de l'éradication était quand même relatif au recouvrement de tout l'écosystème. Et donc c'est ça en fait l'effet de surprise, et on fait un contrôle et puis il se passe quelque chose qu'on n'avait pas attendu, et notamment l'explosion d'une espèce exotique envahissante qui était là mais qui était contrôlée par la première espèce. Donc l'élimination de cette espèce exotique envahissante, elle va libérer la pression qu'elle exerçait sur d'autres espèces exotiques envahissantes, qui sont soit ces plantes ressources, soit ces proies, soit ces compétiteurs, et qui va risquer d'augmenter considérablement cette autre espèce exotique, mais surtout soudainement. Et c'est le soudain qui souvent pose un problème. Un autre exemple, c'est sur l'île d'Amsterdam, une île française. Le programme d'éradication des chats a été arrêté net quand on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des rats qui se mettaient à pulluler. Évidemment, on n'avait pas pensé que les chats contrôlaient les rats sur cette île. Et si vous vous souvenez, dans le cours numéro 4, en fait, le top prédateur, même s'il mange des oiseaux marins, là-bas en l'occurrence, le fait qu'il contrôle les rats, ça avait aussi en partie un effet indirect qui était positif. Alors vous me direz, il faut éliminer les rats aussi, et c'est ce qui s'est passé sur l'île des oiseaux, donc on a éliminé les rats aussi, et là ça a induit une explosion des populations de fourmis introduites qu'on n'avait pas vues jusqu'ici et qui étaient contrôlées par les rats, qui mangeaient les larves et le couvain des fourmis. Bien, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut anticiper les effets de surprise potentiels avant de faire un contrôle sur une île, et donc ça veut dire qu'il faut faire déjà un inventaire des espèces exotiques envahissantes qui sont sur cette île, parce que souvent on voit celles qui posent le plus de dommages, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui ne sont pas maintenues à une faible densité par ces espèces-là. Et puis après, il faut regarder quelles sont les relations interspécifiques, directes et indirectes, entre cette espèce cible et les autres espèces. Et puis une fois qu'on a ça, il faut essayer de prévoir l'impact potentiel que va avoir l'élimination de notre espèce cible pour les espèces indigènes comme pour les autres espèces exotiques envahissantes. Et ça nous mène à notre deuxième partie, parce que ça peut se faire que dans des écosystèmes simplifiés. On ne peut pas faire ça forcément dans des écosystèmes qui sont vraiment complexes et qui sont très riches. Et donc les écosystèmes insulaires, pour ça, c'est quelque chose d'assez utile. Ça a beaucoup d'avantages. Ça a des communautés végétales et animales qui sont peu diversifiées, en général. Une surface qui est finie et qui est limitée, en général. Sauf si on va en Australie, mais on peut trouver des écosystèmes qui ont une surface vraiment très limitées. Des réseaux trophiques qui sont peu complexes et qui sont non redondants, avec peu d'espèces qui remplissent le même rôle. On a un éventail important de conditions différentes. Il y a plein d'îles, en fait. Et comme il y a plein d'îles, eh ben, il y a plein de possibilités. Et puis, comme il y a plein d'îles et qu'il y a plein de possibilités, ben, souvent, on peut avoir des réplicas en prenant plusieurs îles qui ont les mêmes caractéristiques. Et puis, on peut même avoir des contrôles dans des archipels où vous avez une île qui est envahie et puis l'autre île à côté qui a donc à peu près le même écosystème, le même climat, mais qui n'est pas envahie et qui nous permet d'avoir un espèce de contrôle naturel. Et puis, si vous vous souvenez de il y a quelques semaines, il y a 15 jours, on a eu un séminaire qui nous a expliqué que les îles, les écosystèmes insulaires, sont aussi le siège d'une biodiversité qui est unique. 15% des espèces terrestres, mais pourtant, près de 90% de toutes les espèces endémiques sur Terre, c'est-à-dire des espèces qui se trouvent à un seul endroit sur Terre. Une biodiversité unique, mais une biodiversité très menacée, avec 80% des extinctions récentes, dont la moitié qui est due aux invasions biologiques. Donc pour ça aussi, les écosystèmes insulaires, ce sont des systèmes intéressants, voire importants, d'études. Et donc, on a une nécessité d'éliminer ces espèces exotiques envahissantes pour restaurer ces écosystèmes et donc protéger cette biodiversité qui est unique, souvent endémique et particulièrement menacée. Donc, pour vous donner un exemple ici, c'est une synthèse assez récente de tous les programmes d'éradication qui ont été conduits dans des îles, dans des écosystèmes insulaires. Et vous voyez qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont faites en conservation pour protéger la biodiversité insulaire. Et une autre synthèse qui nous montre les bénéfices pour la biodiversité, donc là, qui ont regardé ce qui s'était passé grâce à l'éradication d'espèces exotiques envahissantes dans ces îles. Et vous voyez qu'en fait, il y a aussi énormément d'études qui ont démontré un bénéfice sur la biodiversité suite à un programme de contrôle d'une espèce exotique envahissante dans une île. Mais en fait, comme on l'a vu avec les îles Mariannes, le succès, ça ne va pas seulement se mesurer en termes de disparition totale de l'espèce exotique envahissante, même si c'est évidemment un critère important. Il faut aussi que l'écosystème retourne vers son état initial, si possible, et ça, c'est vraiment pas systématique. Les problèmes que j'ai soulignés sont arrivés en fait de manière assez fréquente dans l'histoire des contrôles des invasions dans les îles. Et donc, si on veut utiliser des écosystèmes insulaires comme site d'étude pour ce genre de travaux, il va falloir avoir un choix avec des critères qui sont importants, comme par exemple un site simple, donc de taille très réduite, si possible avec un relief plat, sans strates arborées, donc un écosystème le plus simple possible, un site qui est peu perturbé, donc qui est perturbé uniquement par les invasions. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit habité. Et puis, il faut qu'il soit assez peu accessible pour pas qu'il soit visité souvent. Sinon, il va y avoir plusieurs types d'impact et ça va être compliqué de distinguer les uns des autres. Il faut qu'il y ait évidemment un site à problématique de conservation, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une riche valeur de biodiversité sur cette île. Si vous avez une île déserte avec absolument rien dessus, même si vous avez une invasion, c'est moins intéressant. Il faut, si possible, qu'il y ait une seule espèce introduite. Ça va nous éviter de compliquer un peu toutes les choses. Et puis, si possible, un site avec un contrôle possible, donc avec des îles qui sont proches, mais où il n'y a pas cette espèce introduite. Et il se trouve qu'en 2000, j'ai été contacté par une association de sauvegarde de la nature néo-calédonienne qui m'a parlé d'une petite île isolée où il y avait une invasion de rats noirs. Cette île était le berceau de nombreuses populations d'oiseaux marins nicheurs, donc qui se reproduisaient sur cette île. Une espèce d'oiseau aptère endémique, le râle ticlin, qui est endémique de la région. Et une crainte d'impact important sur ces espèces, et notamment la disparition locale du râle, parce que ils en voyaient de moins en moins, et puis au fil des années... les dernières années, ils n'en voyaient plus. La dernière année, en fait, quand ils m'ont contacté, ils n'en voyaient plus. Et puis, tous les ans, ils essayaient d'éradiquer les rats. Ils mettaient des appâts empoisonnés sur la plage. Mais quand ils revenaient, il y avait encore plein de rats. Donc, ils m'ont demandé si je ne pouvais pas éradiquer les rats de cette île. Et si vous vous souvenez bien du cours numéro 4, hein, je vous expliquais que les rats, c'était vraiment problématique pour de nombreux pans de la biodiversité, notamment de la biodiversité insulaire, qui n'est pas adaptée à cette prédation terrestre. Et leur île, en fait, ça ne s'invente pas, elle s'appelle l'île de la surprise. Donc, comme je travaillais sur l'effet surprise, je me suis dit, c'est un signe. C'est une île qui fait partie de l'atoll d'Entrecasteaux, qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est en fait à 200 km au nord de la pointe nord de la Grande Terre. Et donc, si on part de Nouméa, c'est vraiment très, très loin. Donc, c'est isolé. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit des critères, en fait, c'est tout ce qu'il faut. Parfait. Elle est simple, peu perturbée, parce que isolée, pas habitée, problématique de conservation importante. Il y a juste le rat. Vous voyez que c'est plat, c'est petit, c'est parfait. Là, c'est une photo d'avion qui a été prise quelques années après qu'on ait travaillé là-dessus, mais qui confirme quand même que c'est fini, c'est limité, c'est relativement simple. Alors, je dis relativement parce que ça a été l'objet de la thèse de Stéphane Co, un de mes thésards, qui, après la première session de terrain, m'a dit « Simplicité, c'est quand même relatif. Tu m'as un peu mis dans un piège, là, parce que c'est pas si simple que ça. » Et vous allez voir qu'il y a quand même des choses. Donc, j'ai accepté de contrôler les réintroduits, mais avec une condition. La condition, c'était de pouvoir étudier l'écosystème dans son ensemble et donc de prendre plusieurs années pour pouvoir étudier cet écosystème. Avec un financement néo-calédonien et un financement métropolitain, et je souligne ça parce que c'est évidemment très important, un soutien logistique de la marine française en Nouvelle-Calédonie, c'était eux qui nous amenaient sur cette île. Donc, c'est plus de 24 heures de navire, et un navire de guerre, hein, donc un truc qui va vite. C'est une île où il n'y a pas d'eau douce, où il n'y a pas de bâtiment, évidemment. Donc il n'y a pas de téléphone. C'était en 2000, hein, il n'y avait pas de GPS comme on a maintenant, il n'y avait pas de couverture, etc. Enfin, je ne sais même pas s'il y a toujours une couverture là-bas, mais du coup on avait un téléphone satellite qui était relié au navire qui pouvait venir nous rechercher et qui revenait s'il n'y avait pas de pirates dans le coin parce qu'il fallait qu'ils s'en occupent en priorité. Donc c'est pour ça qu'on avait des réserves d'eau, on ne savait pas trop quand ils allaient arriver. Des fois, ils arrivaient 4 jours plus tôt, ce qui était un peu embêtant pour tous les projets, tous les protocoles qu'on avait. Et puis, des fois, ils arrivaient un peu plus tard et c'était un peu embêtant pour les réserves d'eau, par exemple. Bref, donc une île qui est sympa hein, quand même, mais qui est quand même assez loin. Et puis, il faut amener du matériel pour essayer de s'installer un petit peu et puis passer du temps sur cette île pour pouvoir l'étudier sous toutes ses coutures. Donc ça, c'était l'objectif, étudier l'île sous toutes ses coutures. Et là, c'est ce qu'on va regarder dans cette troisième partie. On a utilisé trois étapes différentes pour étudier cet écosystème envahi. D'abord, une caractérisation de l'écosystème avec des observations, des récoltes d'échantillons, une cartographie, des études des relations trophiques. Qu'est-ce que mangeait le rat, donc avec des contenus stomacaux et des analyses isotopiques. Et puis enfin, une reconstruction des réseaux trophiques de l'île avec une modélisation mathématique. Et puis on a utilisé, cette démarche, elle avait différents types d'originalité d'approche à l'époque, des choses qui ne se faisaient pas trop. Par exemple, une recherche de synergie et de complémentarité entre différentes approches simultanées. Une approche de terrain, une approche de laboratoire et une approche théorique qui nous permettait d'éclairer notre problématique avec différents angles et donc d'avoir beaucoup plus d'informations. Et puis, une autre originalité de cette étude, c'était que c'était une étude à long terme, ce qui ne se faisait pas tellement à l'époque. Je ne suis pas sûr que ça se fasse beaucoup plus, avec d'abord une insistance sur le fait qu'il fallait des études pré-éradication, avec comme objectif de connaître vraiment bien la place de l'espèce exotique envahissante au sein du réseau trophique envahi, afin de pouvoir l'éradiquer sans créer un effet surprise. Je vous laisse imaginer que créer un effet surprise sur l'île surprise, on aurait eu l'air un peu bête quand même. Donc, il fallait vraiment qu'on fasse attention. Surtout que j'avais publié plusieurs choses avant sur l'effet surprise, donc j'avais quand même un peu une réputation à tenir. Et puis, la deuxième chose importante sur ces études à long terme, c'est qu'on insistait aussi sur la nécessité d'études post-éradication, ce qui était encore moins fait. Une fois qu'on avait éradiqué, les financeurs ne trouvaient plus tellement d'intérêt à continuer à nous financer pour juste voir si tout va bien. Donc là, l'objectif, c'était de quantifier le succès de l'éradication, à la fois sur la population d'espèces exotiques envahissantes. Est-ce qu'elle est vraiment bien partie, ou est-ce qu'il en restait quelques-uns et qui ont reconstitué une population rapidement? Et sur le reste de l'écosystème, grâce à l'étude continue des effectifs des espèces natives, notamment différentes espèces d'oiseaux marins, tout en surveillant d'éventuelles émergences d'autres espèces exotiques envahissantes. Bon, là, on était safe, on nous avait dit qu'il n'y avait que le rat. Donc, première étape, caractérisation de l'écosystème, observation, récolte d'échantillons, cartographie, là, c'est surtout du terrain. Du terrain, mais ça veut dire quand même beaucoup de choses, on y a été plusieurs années, à chaque fois des équipes avec pas mal de gens, des bénévoles à chaque fois, qui sont venus avec nous pour tout mesurer. Toutes les plantes, tous les invertébrés, tous les insectes qu'il y avait, tous les oiseaux, combien d'oiseaux, faire des transectes. Donc là, vous avez des gens qui coupent les transectes pour faire des lignes droites, pour pouvoir mesurer tous les 2 mètres, compter le nombre d'oiseaux qu'on a, pour pouvoir le faire tous les ans et pour pouvoir repérer les changements d'une année sur l'autre. Donc un travail gigantesque quand même, avec une récolte par piège par exemple d'insectes pour pouvoir après identifier qu'on avait plus de 80 espèces d'arthropodes sur cette île. Et puis on avait quelques cartes avant, mais c'était le GPS commençait juste à exister, et mon étudiant Stéphane Co a réussi à négocier de partir avec un GPS sur l'île. Et donc c'était un énorme sac à dos qui faisait 20 kilos, avec une super grande antenne. Et donc, grâce à ça, il a réussi à cartographier l'île en se baladant sur partout l'île, en prenant des points à peu près tous les mètres. Et au final, on a eu cette carte de l'île avec toutes les unités de végétation différentes. Et puis, quelques années plus tard, en fait, là, une année après, il y a un hélicoptère qui est passé au-dessus, qui nous a pris une photo. Et qui nous. Bon, ouais. Si on voit le verre à moitié plein, on va dire que ça nous a permis de voir qu'on avait tout bon. Et puis, en faisant ça, en fait, on a trouvé une petite population de souris sur l'île que personne n'avait vue jusqu'à maintenant. Et pourtant, il y avait eu beaucoup de passages de naturalistes sur cette île. Il y avait une petite population de souris, toute petite, très localisée. Et puis, on a fait aussi une étude des relations trophiques. Donc ça, c'était en laboratoire. On a capturé des rats, on a appris leur contenu stomacal. On a regardé dans ce contenu stomacal ce qu'il y avait. Et aussi dans les fesses qu'on trouvait. Donc ça veut dire qu'il faut faire... C'est une méthode basée sur les caractéristiques épidermiques des plantes, mais aussi sur les cuticules des insectes, etc. Et on fait un catalogue de références. Donc on fait 2000 photos de tout ce qu'on a trouvé sur l'île. Et puis, on arrive, donc ça, c'est 2 plantes, par exemple, 2 morceaux de plantes. Et donc, après, dans les fesses et dans les contenus stomacaux, on va tout passer au peigne fin pour essayer de voir si on trouve des choses qui sont dans ce catalogue de référence. Et donc, on va pouvoir, comme ça, voir exactement ce que mangent nos rats. OK, donc là, on voit tout ce qu'ils ont mangé entre les plantes, les graines, les arthropodes, etc. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas voir ce qu'ils mangent, notamment ce qui ne laisse pas de traces dans les fesses ou dans l'estomac. Par exemple, le blanc d'œuf ou le jaune d'œuf, ce n'est pas quelque chose qui vont se voir. Et donc, il faut des méthodes complémentaires qu'on va faire en laboratoire aussi. C'est la méthode des isotopes stables. Donc, c'est une méthode en fait, qui permet de déterminer les flux de matière au sein des réseaux trophiques et qui est basée sur des ratios naturels en carbone et en azote. Et on sait que les isotopes réagissent différemment au processus biochimique et que donc ces ratios, C13, C12 et N15, N14, ils vont évoluer dans notre écosystème en fonction de différents processus biochimiques. Et notamment, il va y avoir une bioaccumulation par palier, à chaque niveau trophique, à chaque fois qu'on passe d'une proie à un prédateur supérieur, on va avoir notre ratio qui va bouger, notre ratio et l'autre ratio, en fait, c'est lui, il est plus important par rapport aux caractéristiques de l'écosystème à l'entrée du réseau trophique, par exemple marin ou terrestre, ou des plantes, différents types de plantes. Et donc, on peut comme ça mettre nos deux ratios sur un graphe comme ça et s'apercevoir que, en fonction de où on est sur le graphe, on a soit des plantes, des proies, des mésoprédateurs, des superprédateurs, ou alors des espèces d'origine terrestre ou marine, ou des plantes de type C3 ou de type C4. Et ça, c'est ce qu'on trouve sur notre écosystème. Et, aux surprises, on voit que le rat est au centre de toutes les proies que l'on avait vues déjà dans notre analyse de régime alimentaire. Et donc, ça nous permet comme ça de reconstituer notre réseau trophique et de voir un petit peu tout ce qu'on avait trouvé sur l'île, les liens avec les différentes espèces. Tout sauf les reptiles marins. On n'avait pas trouvé de lien avec les reptiles marins. Il n'y a pas d'évidence dans la littérature que les rats peuvent avoir un impact direct sur les reptiles marins. Et je me suis posé la question. Et en fait, quand on y allait, c'était toujours en novembre, là où il y avait beaucoup d'œufs et d'oisillons. Mais en février, par exemple, il n'y a pas d'œufs et d'oisillons. Et donc, on se demandait ce que mangeaient les rats. Or, il se trouve que ça, c'est la période de ponte des tortues marines. Et donc, j'ai monté une expédition un petit peu particulière, parce que c'est une expédition qui a duré très peu de temps. On a passé 24 heures sur l'île. On a passé presque 48 heures de voyage, 36 heures d'avion. Ensuite, on a passé presque 40 heures de navire après le retour pour 24 heures. Donc, il ne fallait pas se planter. Donc, j'avais calculé de manière à ce que ce soit la pleine lune de la période d'émergence des tortues normalement, enfin, en tout cas, en comptant le nombre de semaines après les périodes de ponte, en comptant la température qu'il avait fait, le taux de maturation des œufs, etc. Donc c'était là où je pensais qu'il pourrait y avoir des émergences de tortues. Et effectivement, succès de la mission parce qu'on a fait la première observation de prédation de rats sur les émergents de tortues marines. En fait, si on regarde où étaient les rats tous les ans, ils étaient un petit peu partout, mais lorsqu'on a regardé en février, ils n'étaient plus du tout sur l'intérieur de l'île, ils étaient tous sur la plage. Ils étaient tous sur la plage avant que les tortues n'émergent du sol. On les voyait tous qui sautillaient sur le sable, on se disait « Ah, ça va arriver ». Il y avait les skuas qui attendaient en haut, les oiseaux prédateurs, puis il y avait les requins qui attendaient dans l'eau. Et là, les tortues se sont mises à sortir, et là, ça a été un véritable carnage. Et donc, on avait notre réseau trophique, et on avait aussi des raisons de nous dire il faut faire quelque chose. Il n'y a pas que pour les oiseaux marins. On a vraiment besoin d'enlever cette population de rats qui a un impact probable important sur beaucoup d'espèces là-bas. Mais du coup, la question, c'était quelle méthode et quel risque. Et puisque c'était un programme de conservation, c'est l'occasion pour moi de vous présenter le docteur Guillaume Latombe qui va nous donner le séminaire complémentaire cette semaine. C'est un séminaire sur la biologie de la conservation ou les sciences de la conservation. Et je vous invite donc évidemment à rester parce que ça va être un séminaire extrêmement intéressant. Je peux vous le dire en avance. Ils sont toujours extrêmement intéressants. Je vous dis ça à chaque fois, mais là, encore plus. Et puis, la troisième approche qu'on a utilisée, c'est celle de la modélisation mathématique qui va nous permettre, de manière assez pratique, de bien comprendre le système in silico. On n'est pas in vivo, on n'est pas in vitro au laboratoire, on est in silico dans notre ordinateur. Et là, on peut essayer plein de trucs. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on remet à zéro et on recommence. Si ça ne fait pas ce qu'on veut, eh ben on sait que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire sans avoir fait prendre des risques à la population. Ok, donc la modélisation mathématique, dont je vous parlerai dans le dernier cours, un peu plus en détail. Comment ça se passe ? On a des régimes alimentaires... la modélisation mathématique, en fait, je vais l'utiliser parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a trouvé une petite population de souris. Alors oui, c'est une toute petite population, c'est des souris, c'est plus petit que les rats. Elle est très isolée, elle était au niveau d'une palmeraie. Enfin, vraiment, il n'y a pas de quoi fouetter un rat. Mais en fait, les régimes alimentaires sont similaires. Il y a une compétition probable pour l'eau des plantes parce qu'il n'y a pas d'eau douce sur cette île. On sait déjà dans la littérature que lorsqu'il y a des rats et des souris, c'est les rats qui sont les compétiteurs supérieurs. Donc, on a cette compétitivité supérieure. Et donc, il faut qu'on évite une explosion de souris qui serait liée à la suppression de ces rats qui contrôlent peut-être cette population de souris. Et ça, on va pouvoir le voir peut-être avec un modèle mathématique. Donc pour ça, en fait, on a des données qui sont issues des isotopes stables, on a des données qui sont complétées par les analyses de contenus stomacaux et intestinaux. C'est utilisé pour estimer des coefficients de compétition et ou de prédation sur les différents composants de notre écosystème dans notre modèle, de notre écosystème virtuel. On les utilise donc pour mimer une dynamique des espèces en interaction dans ce réseau tropique simplifié. Et puis, ça va nous permettre de comprendre le système et ou de prédire ses tendances, y compris lorsqu'on essaye d'enlever le compétiteur supérieur. Alors, je vais vous mettre quelques équations. J'ai fermé les portes à double tour, donc vous êtes coincés. Mais ça va quand même rester simple. Ça, c'est une équation relativement simple. Ce petit signe là, ça veut dire c'est la variation de n sur le temps et n c'est l'effectif. Donc on suit l'effectif de notre population sur le temps et on la met sur ce graphe. Ici c'est le temps, ici c'est l'effectif. Ok. Le modèle le plus simple, c'est le taux de croissance fois n. Donc chaque année, on a le taux de croissance, les mortalités moins les natalités moins les mortalités fois le nombre d'individus et donc on a une croissance exponentielle. Ça, c'est plutôt pas mal pour les premiers stades d'une population, de la naissance d'une population, mais ce n'est pas réaliste parce qu'une population, elle ne peut pas croître de manière infinie sur un système fini, comme on fait sur la Terre en ce moment avec les humains. Et donc, on fait une petite correction à ce modèle pour pouvoir apporter un peu plus de réalisme. On va multiplier par n sur k. Le rapport n sur k, c'est, alors n c'est toujours l'effectif de l'année en cours, et k c'est la capacité limite du milieu, c'est le maximum que le système peut contenir d'individus de notre espèce n. Ça veut dire qu'au départ on commence par une croissance exponentielle, mais on a un point d'inflexion ici, et au fur et à mesure qu'on se rapproche de k, en fait on va croître de moins en moins rapidement. Il se peut des fois qu'on dépasse K, mais dans ce cas-là, on va se retrouver avec un taux de croissance négatif et donc on va retomber à K. Okay ? Donc on peut dépasser, mais à ce moment-là, on va se retrouver après à K. Chaque fois qu'on est en dessous, on remonte. Chaque fois qu'on est au-dessus, on redescend. Donc cette équation, c'est une équation hyper simple avec juste deux paramètres, le taux de croissance et la capacité limite du milieu. Et c'est ça qu'on va utiliser tout du long. Une équation vraiment simple. Sauf que des fois, on a deux espèces, c'est pas grave, elles vont chacune avoir cette équation-là, et puis on va prendre un taux entre les deux qu'on va rajouter, qui va être soit un taux de prédation de l'une sur l'autre, soit un taux de compétition de l'une avec l'autre. Okay ? Et par exemple, dans notre île surprise, nous avons notre rat ici, compétiteur supérieur, et nous avons notre souris, notre compétiteur inférieur, ils sont en compétition les deux. Et donc ça va nous donner deux équations qui sont à peu près comme ça, une pour la souris en orange, une pour le rat en rouge, sauf qu'on a rajouté ces deux paramètres qui sont des paramètres de compétition. Okay ? Sur la souris, on a alpha fois le rat et sur le rat, on a alpha 1 alpha, ça c'est le deuxième alpha, fois de la souris. Plus il y a de compétiteurs de l'autre et plus ça nous embête. D'accord ? Donc, je ne vais pas plus en détail dans l'équation, vous avez juste besoin de voir ces choses-là. Les seules choses qu'on a pris en compte ici, c'est les taux de croissance de nos deux espèces, les capacités limites de nos deux espèces et les taux de compétition de nos deux espèces. Et ça, en fait, ça suffit pour nous montrer comment un système simple pourrait réagir. Donc, si on regarde le temps et la taille de nos populations, si on a deux populations, ici, bah, on voit que, en fait, le rat est un compétiteur supérieur parce qu'il a fait baisser la population de souris par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Et là, on a un équilibre qui est stable. Ça se passe comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met du contrôle de notre rat dans notre ce qu'on veut faire en fait sur le terrain? On rajoute ici un oméga fois R, donc on va contrôler tous les ans oméga rat, un pourcentage de notre population. Et ce qui se passe, donc ici on contrôle notre rat, mais en fait on s'aperçoit que la souris elle augmente. Notre système il est vraiment simple, hein, mais il montre bien que si on élimine en partie le rat, si on le contrôle en partie, alors la souris elle commence à augmenter parce qu'elle n'a plus de contrôle par le rat. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder si on contrôle plus. On contrôle encore plus. Qu'est-ce qui se passe si on contrôle encore plus? Et bien, en fait, on va jusqu'à éliminer le rat et là, la souris, elle va vraiment augmenter. Et elle va augmenter très vite. Okay? Plus on contrôle, plus la souris augmente. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est contrôler les deux en même temps. Et si on contrôle les deux en même temps, donc avec quelque chose de plus ou moins spécifique, on peut regarder ce qui se passe. Et si on fait quelque chose un peu spécifique, on a ça, mais si on fait quelque chose d'encore plus spécifique, et ben en fait, c'est encore pire. On a une augmentation encore plus. Et en fait, plus on contrôle de rongeurs, y compris des souris, et plus on a des souris. Parce que même si on les contrôle, le contrôle que les rats exerçaient est relâché. Et ça, ça suffit à faire exploser la population de souris. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte dans notre modèle. Autre chose qu'on avait dans notre système, c'est qu'on a trouvé des plantes introduites. On a trouvé deux plantes introduites, potentiellement envahissantes. On ne sait pas si elles étaient envahissantes ou pas. Il y avait deux patchs qui étaient assez restreints, Colubrina et Cassisia. Mais ces espèces, elles étaient dans les régimes alimentaires des rats. Donc, on avait l'impression qu'elles n'étaient pas très présentes, mais elles étaient dans le régime alimentaire des rats. Ça, c'est une des deux espèces. Et donc, on s'est dit que peut-être que si on supprime les rats, on pourrait déclencher une invasion de l'une de ces deux espèces ou des deux espèces si leur progression avait été contrôlée par les rats. Donc, dans notre écosystème, qu'est-ce qu'on a? On a des rats qui consomment de nombreuses espèces locales, dont certaines sont en déclin, mais aussi on a plusieurs espèces exotiques qui sont liées à ces rats. Et rappelez-vous de l'île de Marianne, de ce qui s'était passé là-bas. Nous, on veut que le succès, ce ne soit pas uniquement l'élimination des rats. Donc, il faut éliminer les rats, effectivement, pour supprimer l'impact qu'ils pourraient avoir sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les insectes, à minima, peut-être sur d'autres choses. Mais donc, il faut planifier avec attention, parce qu'il faut aussi éliminer simultanément les rats et évidemment, il faudrait aussi éliminer les plantes exotiques. Donc ça nous a fait revoir complètement notre stratégie d'élimination des souris et des rats. Enfin, d'élimination des rats qu'on voulait faire au départ. Une fois qu'on a éliminé les rats, on a fait une analyse globale suivie de toutes les populations d'oiseaux et on l'a continué dans le temps. Donc, cette élimination, on l'a faite en 2005 et on a continué pendant 20 ans. Alors, pas tous les ans cette fois-ci, parce que évidemment, tous les financements se sont rétractés. Enfin, se sont rétractés. On n'a pas eu de nouveaux financements parce que ce n'était pas tellement intéressant d'aller regarder des choses qui, normalement, devaient se passer bien. Mais on a quand même réussi, donc, pendant plus de 20 ans, avant et après l'éradication des rongeurs, de suivre toutes nos populations d'oiseaux. Et c'est un papier qui vient d'être publié, enfin qui a été publié l'année dernière et qui d'ailleurs a reçu le Rising Star Award de la meilleure étude dans ce journal, fait par Philippe Le Saffre, qui a fait son stage de master pour analyser ces populations d'oiseaux pendant toutes ces années. Et ici, on a Stéphane Coe, qui est l'artisan principal de cette étude, puisqu'il a fait les trois premières années d'études et l'éradication des rats. Donc, ce qui était intéressant, et ce pourquoi on a eu ce prix, c'est que c'était une étude originale parce qu'elle était avant et après l'éradication, parce qu'elle était pendant plus de 20 ans, et parce qu'elle était sur l'ensemble de l'écosystème, qui était un écosystème suffisamment simple pour pouvoir être étudié dans son ensemble. Et ce que ça montre, c'est que les comptages avant et après éradication, sur le long terme, vont nous permettre de quantifier les effets d'éradication des rongeurs et vont nous montrer aussi, alors donc ça c'est différentes espèces d'oiseaux marins, avant et après l'éradication, et en fait on voit que les taux de reproduction des oiseaux sont différents, la vitesse de recouvrement des populations sont différentes, mais que toutes semblent se reconstituer progressivement. Et qu'on a même des espèces, d'oiseaux nouvelles qui arrivent, qui avaient disparu de l'île. Donc ici, si on prend la chronologie, on avait les premiers suivis qui n'avaient pas été faits par nous en 95-96, notamment par une équipe de Chizé de Vincent Bretagnol, qui nous a permis d'avoir une base avant qu'on arrive. On avait une phase d'études pré-éradication, puis une éradication avec une phase de suivi à cœur annuellement, tous les ans, et puis après une phase où on étudiait de manière un peu plus espacée dans le temps, mais où on s'aperçoit que l'île redevient attractive pour des oiseaux des autres îles. Il y a une augmentation du succès reproducteur et on a une transformation de l'habitat qui va être aussi intéressant, qui va attirer d'autres espèces. Et qui va faire que les espèces d'oiseaux vont recouvrir, alors à différents rythmes, à différentes vitesses, mais vont se reconstituer. Donc en conclusion, les invasions peuvent être éliminées, on y arrive, ça marche, il y a des centaines de programmes d'éradication, notamment dans les îles. C'est en général un bénéfice démontré pour la biodiversité locale, et dans les îles c'est souvent une biodiversité endémique, unique. Ça va nécessiter une planification méticuleuse si on veut qu'on arrive réellement à succès, avec des études approfondies pour éviter des effets de surprise, des effets de surprise qu'on a retrouvés dans beaucoup de systèmes. Il est essentiel de baser toute décision de gestion sur la connaissance des processus écologiques qui sont à l'œuvre dans l'écosystème envahi, et tout ça c'est vrai évidemment pour d'autres espèces exotiques envahissantes, pour d'autres écosystèmes et pour d'autres situations. Alors les îles et les invasions biologiques, je vous ai dit que c'était un petit peu comme des laboratoires vivants pour comprendre les relations trophiques. C'est important d'avoir des combinaisons d'approches pour pouvoir vraiment avoir des complémentarités et des synergies entre elles. Et puis, ces études, elles nous permettent à la fois d'avoir des études d'écologie fondamentale et des études d'écologie appliquée, donc de sciences de la conservation, que vous allez voir tout à l'heure. Et donc ça, c'est une des équipes sur l'île, bien épuisée en attendant la marine qui vient les rechercher. Et puis juste pour terminer, un petit film qui va vous montrer comment c'est maintenant, 20 ans après. Thank you. ça me permet de remercier tous les gens grâce à qui ça a été possible. Il y a eu pas mal de gens qui ont été, qui ont passé du temps. C'est une île classée conditions extrêmes, même si ça a l'air paradisiaque comme ça. Donc merci à eux. Pour terminer, on a planifié pour restaurer cet écosystème envahi. On a passé du temps pour le faire. Mais évidemment, et ça je vous l'avais montré déjà plusieurs cours avant, c'est toujours plus efficace d'être proactif et d'empêcher les invasions avant qu'elles n'arrivent. Ça nous aurait évité de faire 25 ans d'études, de dépenser de l'argent, du temps, etc. Mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour prédire ce qui n'existe pas encore dans des situations aussi complexes que l'écologie? Et surtout, qui dit prédire, dit changement climatique. Et qui dit changement climatique, dit qu'il faut évidemment prendre en compte tout ça dans notre prédiction. Et donc on va voir la semaine prochaine comment les changements climatiques vont affecter les invasions biologiques et entre autres pourquoi tout ce programme qu'on a fait là sur l'île surprise, mais en fait ça ne sert à rien à cause du changement climatique. Merci à vous pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.